On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour. Notre voyage autour des marmites du monde se poursuit. Aujourd'hui, on vous fait redécouvrir la cuisine de Louisiane. Bon voyage et bon appétit.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Il y a du poisson chat frit, il y a des boulettes de boudin, il y a ce qu'on appelle des hush puppies, donc ça c'est de la farine de maïs. Nous avons aussi de l'alligator.
C'est bon, hein?
Ah oui?
Ouais.
C'est entre volaille et du cochon.
Voilà. Bonjour. Bonjour les cousins et les cousines. C'est des crevettes bouillies nature et les écrevisses. Deux plats que nous aimons beaucoup. Alors, ce soir, on aura de l'alligator que moi, je prépare à la Provençale.
Moi, je vais manger des écrevisses, pas des pommes de terre et des champignons et du maïs. J'aime mieux les écrevisses.
Des écrevisses. Bonjour à toutes et tous. La Louisiane, un état du sud des États-Unis posé sur le golfe du Mexique. Mais qu'est-ce qu'on mange ? Entre Baton Rouge, la capitale, et la Nouvelle-Orléans, la ville de tous les plaisirs, eh bien on mange une cuisine colorée, épicée, voire caractérielle. C'est la cuisine Cajun. En voilà une passionnante marmite où les Espagnols, les Français, les esclaves africains, les Amérindiens ont mis leur grain de sel. Notre reporter Stéphane Combe a baladé son micro dans la moiteur de la Louisiane à la découverte de surprenantes expériences culinaires. On va le voir avec lui, nous entendrons ses reportages tout au long de cette émission. Nous allons également apprendre à cuisiner Cajun à la maison et ça tombe bien, on en a très envie puisque c'est une cuisine ensoleillée, épicée, on va le voir. Et nous avons sur ce plateau en direct une coach de choix, Rachel Moller. Bonjour.
Bonjour François.
Pâtissière, cuisinière, américaine à Paris, les becs sucrés vous connaissent très très bien pour votre cheesecake, qui est peut-être bien le meilleur de France, hein, on exagère ou pas, non?
Non, pas du tout.
Pas du tout, on est d'accord. Vraiment c'est exceptionnel. Et vous avez ouvert sur les bords du canal Saint-Martin, Two Stories, un café doublé d'un restaurant gastronomique à l'étage autour de la cuisine Cajun. On va en discuter avec vous. Il n'y en a pas beaucoup des expériences Cajun de Louisiane à Paris et en région. Ça vaut le coup d'être signalé. La Louisiane, l'un des berceaux du cocktail. Peut-être bien, c'est ce qu'on va voir en tout cas avec Joseph Biolato. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bartender, c'est comme ça qu'on dit, hein?
Oui, barman, bartender.
Mixologiste, non?
Barman, bartender, c'est bien.
En tout cas, il a la casquette vissée sur la tête. Et vous êtes patron avec Julien Esco, tiens, un habitué du plateau dont on va déguster, on l'avait reçu pour une émission cocktail. Eh bien, vous êtes co-gérant, co-patron, copropriétaire de Baton Rouge. C'est un endroit assez louisianais, hein, dans son appellation et également dans ses recettes de cocktails que vous servez.
Oui. Oh, oui.
Et vous adorez la Louisiane, vous allez checker en direct. Allez, juste pour faire envie à nos auditeurs, une recette que vous allez nous faire comme ça en direct.
Un grand classique, le Sazerac.
Le Sazerac, notamment.
Et l'une de nos spécialités, notre best-seller, le Jamaican Creole Circus.
C'est votre best-seller.
C'est notre best-seller.
Et vous allez révéler la recette à nos auditeurs.
Je vais révéler la recette sans secret.
Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas venu pour rien, merci beaucoup. Elle s'occupe du dessert, c'est notre chroniqueuse, notre petite praline chérie. Estelle Payani, bonjour.
Bonjour.
Ne rougissez pas.
Ben, c'est l'effet des confiseries, vous savez.
C'est ça, elles sont belles vos confiseries. Hein. Franchement, aujourd'hui, on a carrément envie de se jeter dessus.
Ça sera pour la fin.
Mais alors, praline ?
Praline, mais praline de là-bas.
Praline de là-bas. On va voir que les pralines de là-bas ont pris un petit coup de tropique. Hein. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, c'est super. Michel Biou, Nadia Chougui, Raphaël Rousseau sont sur le pont derrière la vitre de la régie. Vos expériences culinaires en Louisiane, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et vos meilleures adresses. Sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Sur Twitter, avec le mot-clé, on va déguster. Et pour consulter toutes nos infos, les recettes de nos invités, il y a des cocktails, des choses à manger. Pour vous abonner aussi au podcast de l'émission, il y a notre page On va déguster sur franceinter.fr.
On va déguster les saveurs de l'été.
Bobby, tu finis le fish? On va s'asseoir, on va goûter le poisson dans une seconde.
Ici, dans ces cuisines, René Bageux, vous faites de la cuisine créole.
Complètement créole. Créole, c'est les bases françaises. Le beurre monté, les beurres blancs soi-disant, le barbecue.
I know, it means a lot, appreciate it.
Par contre, on oublie des fois l'histoire des autres, un mélange. Il y a des Yougoslaves, des Allemands, des Italiens. Créole, le mot créole, c'était n'importe qui est né en Nouvelle-Orléans, c'était créole. même les Yougoslaves, en fait, quand les Yougoslaves, ils ont venu travailler dans les marécages, et c'est eux qui ont fait les huîtres. Regarde, Stéphane, goûte ça, la sauce de la tortue. On fait la soupe de tortue ici, mais nous, on fait 100% en tortue.
Yes, sir, I am making the gumbo.
Oh, oui. And the turtle. Il y a un peu de vin dedans et des herbes.
C'est délicieux. Ça n'a pas du tout le goût de la... même d'une soupe de poisson. Ça c'est même plus proche, à la limite, d'une soupe avec de la volaille.
Et ce qu'il y a dedans, c'est des œufs cuits. Il faut que tu goûtes. Et ce qu'ils appellent l'andouille ici. L'andouille d'ici, ce n'est pas l'andouille de France. Une saucisse fumée. Et tu as des huîtres d'ici, dans la soupe, des crevettes, une bonne base de soupe avec ce qu'ils appellent gambo. Goûte ça, tu vas goûter.
C'est curieux ce mélange entre la saucisse et le fruit de mer.
Toutes les familles, ils font la meilleure gambo du monde.
Pour résumer, là, ce que je viens de manger, donc, c'est de la cuisine créole.
Ah, complètement. C'est des bases françaises. Les Français sont arrivés ici, ils sont adaptés. Les Français, les Acadiens, les Noirs, les Blancs, les Allemands, on a tous mangé les huîtres, tout ça, parce que les huîtres, c'est sur le bord de la rivière. Donc, tout le monde mangeait ce qui était là. Donc, tout le monde s'est adapté.
Notre reporter Stéphane Combe s'est aventuré au fourneau du meilleur restaurant de la Nouvelle-Orléans. Rachel Moller, vous nous disiez que vous connaissiez ce restaurant.
Oui, bien sûr, c'est le Palace Café.
Voilà.
Ça se situe sur le Canal Street, qui est une rue assez cool en Nouvelle-Orléans. Ça sépare le quartier ancien français et le parti moderne de la Nouvelle-Orléans.
Et ben voilà, elle connaît bien Rachel Moller, vous connaissez bien la Nouvelle-Orléans. Précisons d'emblée que vous n'êtes pas originaire de là-bas. Vous êtes américaine, de l'Ohio.
De l'Ohio, tout au nord.
Mais vous avez voyagé très très jeune.
Voilà, je suis partie à 18 ans. C'était mon premier voyage sans mes parents et mon premier voyage hors de l'Ohio. Mm-hmm. Donc, je suis parti à 18 ans, à 18 heures le soir. Il faisait moins 15 degrés chez nous et nous ont conduit 17 heures de suite. Et on est arrivé à Nouvelle-Orléans le matin. Le 1er janvier, il faisait 26 degrés, il y avait du soleil, et moi je suis tombé amoureuse.
Et ben voilà, tout simplement, la belle vie. Et depuis, elle a ouvert un restaurant de Louisianais, carrément, quand même, faut le faire, hein, au bord du canal Saint-Martin, on va en parler dans un instant. Alors, essayons de décrypter comme ça quelques mots-clés qu'on entendait dans un reportage un petit peu dépaysant, voire un peu déboussolant, quand même, faut bien l'avouer, parce que ce qu'il y a de paradoxal, c'est que c'est un chef francophone, René Bageux, il parle comme nous, si j'ose dire, avec un petit accent...
Acadien.
Ouais, acadien, c'est ça. J'allais presque dire québécois, mais alors là, je vais me faire des ennemis parce que c'est pas la même chose. Mais essayons d'y voir plus clair. Déjà, il parle de créole. Créole, cajun, qui serait de vous deux me faire un peu la différence
Il y a une petite distinction qui sont parfois mélangées. Enfin, je pense en Europe, on les connaît pas. Surtout parce qu'en France, on parle de cuisine créole et ça n'a rien à voir avec le créole de Louisiane.
C'est vrai qu'on les Caraïbes, pour les Français, voilà, c'est Caraïbes et c'est les Français des Antilles par opposition aux Français du vieux continent.
Exactement. Ouais. Et donc ici, nous, à la Louisiane, le créole, on parle de les immigrants français, la Louisiane qui à l'époque c'était la France.
Absolument.
Et on parle de ces immigrants. Et les différences en cuisine avec les créoles et les cajuns, les créoles, c'est identifié un petit peu plus avec l'aristocratie, un peu plus élaboré. Là, on a des bonnes bases françaises, comme on a entendu, avec le beurre monté, les crèmes, etc.
C'est ça. Alors voilà. Ça, c'est vraiment des origines françaises. Donc, la Louisiane, intimement liée à la France, évidemment, puisque Louisiane, ça vient même de Louis XIV. Hein. C'était en hommage à Louis XIV que la France a fondé la Louisiane. Il y avait donc les créoles, qui sont en fait les descendants des premiers colons, dont les Français, et puis ensuite les cajuns, qui est une déformation de cadien. Alors, définition de cadien, Joseph ?
C'est les émigrés canadiens, tout simplement, qui sont venus chercher la bonne température aussi.
Et parfois un siècle après. Hein.
Ah oui, parfois un siècle après. Oui, qui, c'est bien. Il y a eu des vagues successives d'immigration, de toute façon, en Louisiane. Ils ont accueilli tout le monde, c'était un état d'asile comme la France. Donc,
Un vrai melting pot
culturel.
Et qu'est-ce que c'est important avec les cajuns de savoir, c'est que ça, on est plus sur une cuisine de campagne. Donc vraiment tiroir, un petit peu plus pauvre si je peux me permettre, les ingrédients, les utilisations, façon de cuisiner longue, des ragoûts, etc.
C'est ça. Voilà. Premier avant-goût, on entendait dans ce son René Bageux cuisine sur Canal Street, la soupe de tortue, vous avez déjà goûté ça ?
Mais ça c'est assez rigolo parce que hier en cuisine, à Two Stories, on vient de parler ensemble, on a appelé plusieurs fournisseurs des poissons, fruits de mer en France, et ils nous ont rigolé, ils nous ont moqué de nous qu'on on a demandé si on peut avoir des tortues.
Vous n'avez pas réussi.
Non, on n'a pas réussi.
À moins que vous pêchiez les tortues sur le canal Saint-Martin, je ne sais même pas s'il y en a. Mais bon, en tout cas, voilà. On entendait andouille. Voilà un mot qui résonne français, mais attention, c'est un faux ami.
Oui, il y a beaucoup de faux amis dans la terminologie cuisine de Nouvelle-Orléans et de Louisiane. On parle d'andouille, mais il n'y a rien à voir avec l'andouille qu'on est en France.
Rien à voir avec vire ou guéméné.
Oui, c'est un saucisse du porc, finalement, bien épicé, avec beaucoup de saveurs et surtout une saucisse du porc qui est fumée.
C'est
voilà.
Ça. D'accord. Alors, gombo. C'est vrai que gombo, pour nous, logiquement, c'est le légume africain, vous savez, avec un peu pointu, qui existe d'ailleurs beaucoup en Louisiane, et qui est cuisiné en Louisiane, qui a ce petit côté mucilagineux, un petit peu gluant.
Voilà. On l'appelle aussi l'okra, quoi.
En bouche,
après,
voilà,
si on
l'appelle
aussi l'okra. Si on cuisine correctement, on peut faire sortir cette partie gluant.
Mais sauf que gombo, c'est aussi autre chose. C'est un des plats phares de Louisiane.
Oui, gumbo,
c'est gumbo,
c'est une des plats, enfin, le plus renommé, je pense, avec le jambalaya, de la Louisiane. Et ça, on parle d'une soupe, une stew, finalement, qui, en Louisiane, tous commencent avec la trinité. C'est des fameuses légumes, comme en France, le mirepoix.
C'est ça.
Juste cette fois-là, on est sur les oignons, ouais. Les céleri, et, pas les carottes, mais les poivrons,
c'est
finalement.
Ça.
Et on fait un roux dans toutes les cuisines louisiennes. On a
le roux,
le roux.
En voilà
c'est la base de la
un
cuisine.
Vieil héritage voilà. De sortie des oubliettes. Il y a plus beaucoup de chefs qui font des roux aujourd'hui.
Hein, de la farine et du beurre.
Définition de roux, c'est ça.
De la farine et du beurre ou ouais. D'huile. Oui, d'huile. Pour le gumbo, nous privilégions l'huile pour que on peut obtenir un roux des différentes étapes de roux. On a des roux blondes, le roux brun, le roux même chocolaté, donc qui est cuisiné longtemps sur le poêle pour développer vraiment des arômes de la farine. Et si on utilise du beurre, ça brûle.
Des roux qui sont assez toastés comme ça, en tout cas.
Toastés,
assez,
ça développe, assez cuit, ça donne les caractères, comme vous avez
c'est
dit.
Ça. Presque c'est... le côté pain grillé, quoi.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Bah, écoutez, on en apprend des choses, décidément. Je vous propose d'aller maintenant à Houma. C'est une ville à une heure en voiture de la Nouvelle-Orléans. On passe la porte d'un bed and breakfast haut en couleur, vous allez le voir, tenu par deux sœurs jumelles, Audrey et Maudrey.
Voilà. Bonjour. Bonjour les cousins et les cousines. Elle a appris le français, moi j'ai jamais étudié le cajun.
Maudrey n'a jamais vu le mot écrit, sauf les belles lettres.
J'ai jamais étudié, mais... Ça c'est mon mari, on n'est pas divorcé parce qu'il ne comprend pas un mot de français. Et quand je l'engueule, ça marche bien. This is my husband Bob. Il vient de finir un bon plat de toi.
Ah ben, bah, des écrevisses.
Toi, tu vas finir le reste. C'est des crevettes bouillies nature et les écrevisses. Deux plats que nous aimons beaucoup. Alors, ce soir, on aura de l'alligator que moi, je prépare à la Provençale. L'alligator est servi avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail et un petit peu de citron. Le filet de la queue, c'est de la viande très blanche. Quand on ajoute le citron, la viande reste plus blanche et ça donne un bon petit goût. Mon Dieu, un mec qui vient voir comme l'alligator est beau. Les deux plats principaux chez les Cajuns, ma mère qui avait 17 enfants, préparait presque tous les deux jours ou le jambalaya, on appelle ça la paella Cajun, ou bien le gumbo. Le gumbo, c'est une soupe. Moi, je vais parler en français maintenant. On routit ça, parce que c'est moyen de marron.
Ce que vous êtes en train de préparer, Maudrey, c'est le...
Jambalaya.
Le jambalaya.
Il va te dire comment voilà. J'ai commencé avec la graisse de bacon. Premier, c'est le poulet. Et on ôte le poulet de la... On dit chaudière, nous autres. On ne dit pas la poêle, on ne dit pas la marmite. On ôte le poulet de la chaudière. Et deux tasses de riz cru. Et je vais te montrer ça dans une minute. Tu n'as pas espéré.
Alors là, maintenant, vous voyez, dans la chaudière, donc dans la casserole, chaudière. Vous avez mis le poulet, la saucisse...
Et beaucoup de... On a le céleri, l'oignon, le poivron, le persil. J'ai baissé le feu, mais je vais juste brasser la cuillère dans la chaudière pour peut-être trop froid, c'est tout. Si tu brasses trop le riz, c'est trop collant. Moi, j'ai jamais étudié le français. Pour ça, je dis un hôpital, deux hôpitaux. Un cheval, deux chevaux. Les Cajuns disent les haricots au lieu de les haricots.
Ça ressemble à la paella, mais ça n'a rien à voir avec la paella. Non, non. C'est un mélange de riz, d'épices, de saucisses, de lard. Il y a une explosion de parfums. Hein.
C'est exactement ça. Bon, dans 20 minutes, tu vas ajouter tes crevettes.
Audrey et Maudrey, les deux sœurs jumelles, elles sont quand même impayables. Elles cuisinent, elles parlent français avec cet accent et puis surtout elles cuisinent, alors des choses typiquement louisianaises. Alligator, j'ai vu votre oreille qui frétillait, Joseph, vous en avez mangé, vous qui avez fait pas mal de voyages
oui,
là-bas.
Oui, j'ai mangé à Nouvelle-Orléans, au restaurant Cochon,
oui.
Qui est l'un des restaurants phares de la Nouvelle-Orléans. Et bah, c'est bon, c'est bon. C'est
vous diriez très... que ça ressemble à quoi?
Ça a le goût du poulet, mais la texture est un peu plus filandreuse. C'est pas désagréable, c'est un peu déroutant parce que c'est pas une texture dont j'ai l'habitude, mais c'est pas mal.
Un gibier qu'on pêche dans les bayous. Alors, bien entendu, on s'est assuré que ce gibier était en ressource suffisante et qu'il n'était pas évidemment menacé. Donc, c'est quasiment une viande du quotidien là-bas, hein, une protéine animale très utilisée. C'est vrai que c'est un peu drôle de l'entendre apprêter à la française. À la provençale, très exactement, avec des oignons, des tomates, de l'ail.
C'est comme la tortue, comme disait Rachel. Hein. Ils ont des habitudes culinaires assez spécifiques. Hein. C'est vraiment un voyage et c'est des paysans. Quand on va là-bas, on découvre des façons d'appréhender la nourriture qui est très différente. Les cocktails aussi, mais la nourriture, c'est vraiment...
Je pense qu'on est immigré quelque part. On cherche on a nos habitudes, nos goûts, nos cultures. Ouais. Et on apporte notre cuisine dans un autre endroit géographique. Et du coup, on est obligé un petit peu d'utiliser les ingrédients qui se trouvent, qui sont frais, soit des animaux, soit du gibier, soit des fruits, légumes, etc. Donc, en ce sens-là, on est sur le bayou. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans le bayou? C'est les alligators.
Pas beaucoup de sangliers.
Pas beaucoup de sangliers, absolument. Bientôt, vous allez d'ailleurs donner de votre personne pour nous faire des cocktails, Joseph, évidemment. Arrêtons-nous sur un plat assez emblématique qui illustre cette melting popote de Louisiane. C'est peut-être bien le plat national de Louisiane, ou le plus connu en tout cas, c'est le jambalaya. Sauf que on n'est pas tout à fait d'accord sur l'origine du jambalaya, parce que si vous vous référez à la notule Wikipédia, on vous dit quand même que cette recette viendrait de l'occitan jambalaya, qui désigne, selon l'écrivain Frédéric Mistral, un ragoût de riz avec une volaille. Oui. Vous n'en pensez rien du tout. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Rachel?
Non, j'ai jamais entendu ça.
Rachel s'oppose à Wikipédia. Pour vous, c'est quoi les origines du jambalaya?
Jambalaya, je pense que c'est très caractéristique de la cuisine louisiane. C'est tout à fait, c'est un mélange de cultures. Donc, nous avons dans le mot, ça se trouve deux racines. Jamba, qui vient de le français ou italien, voilà, le latin, jambon. Et aya, qui vient de l'africain, du riz. Pour le plat, c'est finalement, il y a toujours du jambon dans le jambalaya et il y a toujours du riz. Après, je pense dans les différentes régions, comme dans tous les pays dans le monde, on met un peu qu'est-ce qu'on a disponible.
Mais les Français et les Espagnols s'en disputent un peu la paternité. 1682, les Français arrivent et font de la Louisiane quand même, à l'embouchure du Mississippi. Et 1763, un peu moins d'un siècle plus tard, ce sont les Espagnols qui reprennent la Louisiane. Donc, jambalaya, est-ce qu'on a le droit de dire, ou c'est caricatural, que c'est une paella, en tout cas les Espagnols pensent qu'ils ont rapporté la paella en Louisiane. Ah, vous êtes parti, Rachel. Non, vous cuisinez à l'autre bout du studio.
C'est un plat populaire, c'est ça le plus important, c'est que c'est un plat du peuple et que c'est un plat qu'on retrouve partout, dans toutes les cultures, je pense. Le riz et le jambon, le riz et une volaille, c'est raccommodé.
C'est ça,
c'est raccommodé. La cuisine de la Provence, la cuisine de l'Italie, comme tu disais si bien. Donc.
Même, on reprend les racines dans les cuisines espagnoles, même en mélangeant la viande avec les fruits de mer qui se trouvent dans la paella ou même qui se reproduisent dans la cuisine portugaise aussi, avec les saucisses et les fruits de mer.
On n'a pas peur des accords terminaires en Louisiane.
Non, hein,
c'est vrai, dans le jambalaya
mais
notamment.
Mais surtout, c'est les jambons, c'est qu'on utilise souvent pour les jambalaya, c'est les jambons tasso.
Oui.
Donc, du coup, c'est une.
Tasso.
C'est l'épaule du porc.
D'accord.
Qui est déjà mis en saumure pendant plusieurs jours et après qui est séché. Et après, comme beaucoup de viande en Louisiane, c'est fumé. Voilà, donc ça apporte le côté fumé dans le plat.
Et puis, c'est bien épicé le tasso.
C'est bien épicé, puisqu'évidemment zéro cuisine cajun sans ce mélange d'épices cajun. On va manger et boire dans un instant. La bonne nouvelle, c'est que les jumelles Audrey et Maudrey nous ont préparé un jambalaya, cocktail et po'boy sandwich dans un instant. My voodoo clued me how to dig for the magical roots. How to boil them down till the water turned brown from the juice. Right kind of awe, right kind of rude. Put it in a bottle, get it ready to use on you. Oh yeah. I can train your love to look my way by midnight. Command your heart to beat for me by noon.
morning sun won't set before your match is met. Howling out for love beneath the moon. I rule a bayou land. I'm a Louisiana medicine man. I'm running the woods, collecting all the herb I can. I got my green green dust, my mojo hand. Got to be good. I'm a Louisiana medicine man. Oh yeah. Spell to use on your resistance. It'll wear you down just like a hound in the distance. Wrong kind of move, one wrong turn. Won't be long before you learn of my existence. I rule the bayou land. Louisiana medicine man. I'm out in the woods collecting all the herb I can. I got my green green dust, my mojo hand. Got to be good. I'm a Louisiana medicine man.
La cuisine Cajun dans la bouche et les oreilles, grâce à la trouvaille de notre ami Djoubaka, Louisiana Medicine Man, Coco Robichaud.
Nous allons apprendre à faire un sazerac, ce qui est le premier cocktail. Et le cocktail a été inventé à la Nouvelle-Orléans. Parce qu'il y avait un pharmacien qui, pour ses patients, voulait plus facilement faire passer le médicament. Donc il a inventé, il a pris tout un mélange d'herbes et d'autres trucs. Il les a mélangés dans un coquetier. Et voilà que nous avons le cocktail. Et madame va nous montrer comment faire un sazerac. Le sazerac, c'est le premier cocktail nommé.
Vous prenez de la glace.
Some ice in a glass.
Avec ce liquide, les bitters, c'est la base du cocktail.
And then the next is the sucre.
Alors là, vous êtes en train de mettre donc ce liquide jaunâtre maintenant.
C'est du sucre local.
The sugar for Louisiana.
Le sucre pour la Louisiane.
Dans un coquetier, hein, un vrai petit coquetier.
Tout à fait.
Donc là, une petite dose de cognac.
Oh, c'est joli.
And in here is absinthe.
C'est de l'absinthe.
Vous êtes en train de pulvériser le verre d'absinthe.
You have the absinthe for the French.
L'absinthe, c'est pour les Français.
And the cognac for the French.
Et
le citron, là, vous faites frotter des petits bouts de citron sur le verre. Et pour vous, donc, le citron, ça symbolise l'Italie. On sent que le cognac est présent, hein.
Ah, tout le monde est debout là, je sais plus ce qui se passe, plus personne n'est à sa place, on cuisine, on s'active, on donne du shaker. Nous étions au bord du Mississippi dans le quartier français, où ça?
Qu'on parle pas.
Qu'est-ce que vous mangez?
Ouais, une chips.
Ah d'accord.
Bah, c'est tentant, c'est devant moi.
Vous êtes vraiment concentré sur votre mission de toujours. Bartender.
Oui, toujours.
Le Compère Lapin, racontez-nous ce que c'est en un mot.
Le Compère Lapin, c'est un des nouveaux restaurants, j'ai envie de dire, le renouveau de la cuisine. La cuisine Cajun à Nouvelle-Orléans.
C'est ça.
Il me semble qu'ils ont été nommés aussi meilleurs dans la catégorie de ce qu'on appelle les Tales of the Cocktail, qui est un peu nos awards, nos Césars et nos Oscars pour le monde du bar à Nouvelle-Orléans. Ça se passe à Nouvelle-Orléans chaque juillet. Il me semble qu'ils ont été nommés dans la catégorie meilleur bar de restaurant.
Ah, carrément. Donc ouais. C'est du sérieux.
Ah, c'est du sérieux, oui.
Alors, quand ils disent que la Louisiane serait le berceau ou l'un des berceaux du cocktail, notamment grâce à ce que l'on appelle, alors on dit Sazerac, pour ceux qui ne connaissent pas, on va les placer. S-E-Z-E-R-A-C. On est d'accord?
S-A-Z-E-R-A-C.
Sazerac.
Sazerac.
Bravo. Il est doué, le garçon. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Sazerac, C'est la définition du cocktail par excellence. Un cocktail, qu'est-ce que c'est ? La première mention de cocktail, c'est 1806, mm-hmm. ou 1804 ou 1802. Il y a des dates qui diffèrent. On définit un cocktail par de l'alcool, un spiritueux de base, mm-hmm. du bitter, un mm-hmm. concentré aromatique, du sucre, mm-hmm. quel qu'il soit, et de l'eau. L'eau qui est amenée par les glaçons, la dilution des glaçons. Donc, Sazerac, ça rentre parfaitement dans cette optique du cocktail. Le Old Fashioned aussi est un bon exemple de cocktail par excellence.
Old Fashioned en un mot, la composition.
Du sucre, du bitter, de l'alcool et des glaçons. C'est donc, ça. On y est.
Sazerac, vous Sazerac. Avez tous vos éléments ouais. sous les yeux. Alors, vous avez un tout petit peu anticipé la préparation, ouais. mais globalement, vous avez fait quoi ?
Alors, j'ai déjà rafraîchi mes verres avec de l'absinthe pour que le verre soit chemisé d'anis.
D'accord, chemisé d'anis.
Ouais. En fait, on va apporter une fraîcheur, on va ouais. apporter une fraîcheur au cocktail
d'accord.
avec l'ajout d'absinthe. Ensuite, j'ai déjà dilué un petit peu mon sucre blanc avec le bitter, le concentré aromatique qui est un bitter créole.
Un bitter créole.
Un bitter rouge.
D'accord.
Qui est typique de la Nouvelle-Orléans, qui a été créé par un créole d'ailleurs, car Antoine Amédée Péchaud, qui était pharmacien.
D'accord, qui a un nom d'origine française.
Ouais, et qui était français, créole, qui a donc a créé ce bitter pour des vertus médicinales, comme tous les alcools hein, de toute façon.
Pour lutter contre les fièvres aussi, qui étaient fréquentes avec le Bayou. Quoi.
Mais on demande souvent ce que les Français ont apporté à l'histoire du cocktail. Ben voilà, il y a Joseph Biolato évidemment aujourd'hui, mais il y a quand même des Français qui ont mis leur contribution dans le shaker. Donc bitter,
sucre,
ouais.
un peu dilué, rafraîchi. Je vais enlever l'excédent. Hop.
Alors là, voilà. Vous avez votre petit tamis, votre petite ouais, passoire.
Une passoire, une mesure généreuse
ah oui,
de cognac.
Généreuse, oui.
Il y a pour deux verres.
Hein. Cognac, très français aussi, évidemment.
Pour que tout le monde puisse goûter.
Ah, et là, ah, là, vous avez rafraîchi. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis de la glace pilée dans
de
vos verres.
La glace pilée, j'ai mis de l'absinthe.
Vous avez rafraîchi le verre, vous avez enlevé la glace.
J'ai enlevé la glace.
Et là, vous êtes dans le shaker.
Là, je suis dans la tine de shaker.
Oui.
Je viens juste apporter la dilution nécessaire. Assez rapidement.
En faisant tourner le shaker en même temps au départ.
C'est un tic. Ah. On est plein de tics.
Ouais, mais bon, ces tics sont assez beaux à voir. Là, vous goûtez sur
c'est
un point de la main.
C'est pas trop sucré, c'est pas trop amer, il y a l'équilibre. Je viens verser.
Ouh. Ça va passer directement si Estherelle voulait bien passer un verre à Rachel.
J'attends
qui va nous dire ce qu'elle en pense. Sazerac, évidemment.
La touche finale.
Un zeste de citron.
Que vous exprimez.
Jaune, exprimé. Et tomber.
J'aime ce verbe. Exprimer voilà. un zeste de citron.
Ah, et ouais. frotter autour du...
Ouais, juste sur le dessus pour avoir l'huile essentielle qui va venir titiller.
Vous avez un peu d'huile essentielle, mais comme vous exprimez très délicatement, il n'y a pas l'amertume du citron
non,
en même temps.
Voilà, hein.
C'est juste la fraîcheur de l'huile essentielle du citron. Parfait, c'est joli, okay. c'est ambré.
Yes.
C'est dans un verre plein de buée. Et Rachel, goûte.
Avec plaisir.
Alors
mais déjà, oui, on sent bien l'amertume de la citron dans la bouche. Hein.
Estherel, vous avez le droit de participer à la dégustation, évidemment.
C'est très bon.
C'est amer et pas trop sucré.
Voilà.
Faut que ce soit vif.
Je précise que François-Régis vient de me voler le verre. Voilà, j'étais prête à le finir.
Oh, c'est bon.
C'est très subtil.
Ah ouais.
C'est bien maîtrisé entre l'amer et le sucré. C'est pas écœurant du tout.
Avec une petite trame de beaux amers, effectivement. La fraîcheur du citron, c'est quelque chose, ça. C'est pas compliqué à faire, on l'a vu. Hein.
Non, c'est très simple.
Franchement, 1:30 pour le faire. La recette est en ligne sur franceinter.fr. À la page, on va déguster le Sazerac.
Si ça pouvait détrôner le Spritz, ça ferait mon été.
Absolument. Ça pourrait détrôner... Oui, c'est ça. Moi, je vais le faire vraiment immédiatement. On file. Et puis juste après, on a droit à une recette superbe de Rachel. Dans un restaurant de Lafayette, en Louisiane, pour manger, attention, une petite surprise.
Sour cream and chives.
Est-ce que tu veux du beurre et de la crème fraîche ou des bacon, du fromage pour ta pomme de terre, non?
Alors là, vous avez donc en face de vous...
Ça s'appelle le seafood platter, hein, plat fruits de mer.
Mais ça n'a rien à voir avec les plats de fruits de mer qu'on voit en France. Parce que là, tout est frit. Il y a même des frites.
Oui, les Cajuns adorent la nourriture frite. Hein. On dit rôti, un crabe... bourré, ça dit, c'est farci, la coquille de la crabe, hein. Le haut, ça prend de la viande de crabe et mélanger avec, faire un farci et mettre dans la coquille. Puis là, des crevettes frites, du catfish, c'est une petite tarte d'écrevisse étouffée, des crevettes farcies, hein, bourrées.
Et dans l'assiette que j'ai en face de moi, là, j'ai du crabe.
Au gratin.
C'est un mélange entre une coquille Saint-Jacques et du gratin dauphinois.
Le fromage de crème fraîche et la viande de crabe au haut, sur le top, avec du fromage que ça fait fondre. Hein. Elle est bonne, hein? Ils ont aimé ça et ça ne change pas. On dit toujours, ce qui est bon pour toi, c'est pas bon à manger. Hein. Ce qui est bon à manger, c'est pas bon pour la santé.
Beaucoup de fruits de mer également, en Louisiane évidemment, on est au bord du golfe du Mexique. Simplement, ce qui est un peu déroutant pour nous autres Français qui connaissons le fruit de mer comme finalement des produits souvent crus, mais en tout cas cuits à l'eau bouillante de façon très simple, en Louisiane, les fruits de mer sont la plupart du temps en beignet, en friture.
Oui, tout à fait, soit en friture, on a les Cajun popcorn, notamment, c'est des écrevisses fruits. Et on mange ça comme les petits popcorn, voilà.
C'est magnifique. Si vous voulez, si vous n'avez pas le courage d'aller voyager jusqu'en Louisiane et que vous vous baladez dans le 10e arrondissement de la capitale, vous prenez le quai de GMAP, vous pourriez presque prendre le canal Saint-Martin pour un bayou. Et au numéro 72, une nouvelle maison louisianaise vient d'être inaugurée par Rachel au premier étage, enfin plutôt au rez-de-chaussée. On est plutôt dans de la street food, dans de la vraie cuisine cajun. Plutôt gastronomique au premier étage, dans un décor, on s'y croirait. Hein. On y est allé ensemble, on peut le dire ou pas?
Oui, tout à fait, avec le pianiste, les ventilateurs.
Très très belle expérience louisianaise. Démonstration de street food, preuve que la cuisine de Louisiane, la cuisine cajun, peut être aussi une cuisine de rue. Il y a un sandwich emblématique de ce répertoire.
C'est le po'boy.
Po'boy. Sandwich.
Notamment, c'est le nom de notre café au rez-de-chaussée, le po'boy café.
En plus, c'est le nom de votre café, oui. Absolument. Qu'est-ce que c'est exactement?
Le po'boy, c'est un sandwich avec des origines françaises, hein, parce qu'on a un pain
qui ressemble un peu au pain baguette.
Qui ressemble un peu à une baguette, refait un petit peu à l'américaine pour donner un côté moelleux, parce que les Américains, ils aiment bien les pains moelleux. Voilà, un sandwich, après, c'est plus facile
briochés.
Quand même. Oui, bon, c'est entre brioche et un baguette finalement.
Mm-hmm.
Du coup, c'est pour manger juste, je pense, avec du jambon beurre. Moi, je préfère la baguette, bien évidemment. Mais après, un sandwich avec beaucoup d'ingrédients. Vous voyez, on a du poulet, on a des cornichons, voilà, beaucoup d'ingrédients. Là, je préfère ce pain-là parce que c'est plus facile à mâcher, ça harmonise bien avec tous les ingrédients, etc.
Puis ça boit la sauce hein, aussi, hein. Il y a plein de sauces dedans.
Quelle sauce? Alors là aussi, on est un peu français, mais une France tropicalisée comme souvent en Louisiane. On est dans une espèce de mayonnaise qui a été customisée.
Voilà, ici,
à la cajun.
À la cajun. Souvent, justement, comme on a dit, les cuisines cajun, on n'est pas sur une linéaire statique, on n'est pas fade. On veut développer des saveurs, on veut donner des caractères dans les goûts, dans les plats, et notamment la mayonnaise. On ne va pas aller juste prendre une mayonnaise et mettre sur du pain, parce que voilà, il faut apporter quelque chose à cette mayonnaise qui va contribuer à le plat en totalité. Du coup, souvent, on prend la mayonnaise en une créolaise, par exemple.
Voilà, mayonnaise créolaise.
Voilà.
De quoi s'agit-il? Vous mettez de l'ail?
Du l'ail, du persil, des herbes. Ici, on a mis du raifort, voilà, du donner un petit peps, de kick. On peut mettre du moutard, des graines de moutard, voilà, juste pour ajouter quelque chose.
On la rend un peu, on lui donne du tempérament et du caractère.
Exact, voilà.
Ce qui est étonnant, c'est la viande qui est le principal ingrédient de ce po'boy sandwich. En l'occurrence, là, c'est du poulet. Et ce poulet, il est traité de manière un peu particulière. Je lisais votre recette, j'étais un petit peu stupéfait par la façon dont il était préparé.
Oui.
Il est un peu noir, un peu noirci.
Un peu noir,
un peu carbonisé.
Et en France, c'est vrai qu'on peut penser que c'est brûlé, mais c'est le but. Hein. C'est le
Vous
but.
Saisissez le
voilà.
poulet.
On a notre Cajun seasoning, le Cajun spice mix, qui est très utilisé, très répandu dans les cuisines cajun en Louisiane. Mm-hmm. On a tous dans les placards notre mélange des épices secrètes.
Hein. Alors, mélange des épices, je précise à nos auditeurs qu'on peut les trouver relativement facilement désormais. La définition de épices cajun, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur?
Souvent, bon, chacun, comme j'ai dit, ils ont leur version, mais ça tourne autour des épices principaux. On a des paprikas, du piment cayenne, du poudre d'ail, poudre d'oignon. Après, voilà, ici, nous, on met du allspice,
du
piment de Jamaïque. C'est piment de Jamaïque.
Poivre de Jamaïque.
C'est comme piment de Jamaïque.
Voilà, c'est similaire. Beaucoup de poivre noir. Voilà.
Et
après, on peut mettre
du sel
directement dedans. Ou on met à part. Nous, on préfère le laisser à part pour bien contrôler mieux le saisonnement.
Et quand vous cuisinez, ça veut dire que quand vous cuisinez votre poulet et que vous le faites vraiment à feu très fort,
saisir
sur une poêle. Vous ajoutez là les épices
cajun. Et là, il faut mettre avant le cuisson
c'est ça.
Pour et bien mettre patron. C'est pas en France, on a l'habitude de juste
c'est voilà, pas la pincée,
de mettre quelques pinces. Voilà, non, c'est pas un zeste des épices. Là, on y va. Hein.
C'est la cuillère à soupe plutôt.
On va déguster. On met les épices. Hein.
C'est ça.
Et là, c'est vraiment recouvert en épices et on met le poêle très 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 fort. Même jusque on apprend à l'école, l'huile, il devrait pas fumer. Mais ici, on veut que ça fume. On veut que ça chauffe. Hein.
C'est pour, ça carbonise.
Ça saisit rapidement.
Oui.
Pour que la viande, il est cuit rapidement. Et on ne va pas rester trop longtemps parce qu'après, on a vraiment quelque chose brûlé. On ne veut
mais
pas brûler.
Mais pour qu'elle soit cuite à cœur quand même. Parce que si on va très très fort sur les températures au début, le risque, c'est que ce soit noirci à l'extérieur, mais un peu cru à l'intérieur.
Voilà. La façon de faire à la maison, c'est voilà, on a du blanc, du poulet ou un filet de poisson assez fin pour pouvoir saisir rapidement et que c'est cuit en intérieur, évidemment. Là, nous, on adapte pour la restauration un petit peu plus travaillé. Donc là, on fait saisir le poulet, de vraiment faire blackened. Et après, pour qu'on ait les cuisses et pas des blancs, et on finit bien évidemment au four où on peut faire
braiser
avec une fonte de volaille, de rajouter une profondeur, un caractère.
Un peu de sapidité.
Voilà, exact.
Et ensuite, on a compris qu'on tapissait notre pain avec cette mayonnaise trafiquée cajun avec des épices.
On parle toujours de dressed ou not dressed. Ça veut dire avec... Soit avec des laitues iceberg, tomates et cornichons, ou 60.
Ou 60. Voilà. Bah moi, je préfère avec. Tiens, mais d'ailleurs, vous l'avez fait avec, on va le
aujourd'hui,
déguster.
Aujourd'hui, on a avec, avec des cornichons maison
ça,
de Ryan,
quand même,
chef Ryan.
En pickles, il y a effectivement ces gros cornichons, il y a des tranches de tomates, ainsi que de la laitue iceberg émincée, tout ça avec de généreux morceaux de poulet, et ce pain grillé, nappé de mayonnaise cajun, ça nous plaît beaucoup. Et puis, il y a le dessert avec Esther El Payani.
Oui, une petite touche sucrée. Je vous ai apporté des bonbons, justement, parce qu'il faisait vraiment trop chaud pour des fleurs.
C'est périssable, bien
ouais.
sûr.
Alors écoutez, je vous ai apporté des pralines, comme oula. Dit Rachel.
Est-ce qu'elle a le bon accent ou pas, Rachel? Ah pardon, elle a la bouche pleine, Rachel.
Oh, c'est encore
pralines, pralines. Moi, j'ai dit pralines, mais je ne suis pas de Nouvelle-Orléans.
Vous dites
Ryan, mais
pralines.
Pralines, oui.
Pralines.
Praline, peut-être.
En bon français, ça donne quoi?
Des pralines.
Bah oui, évidemment.
Avec un petit
sauf qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec les pralines de nos latitudes, Estherel.
Je vous jure que ça en est, mais de la Nouvelle-Orléans, qui sont vraiment différentes des pralines françaises que nous connaissons. Est-ce que vous voulez goûter, François-Régis? Dites-moi.
Ouais, moi, j'ai déjà goûté. Hein, j'ai
alors, à quoi ça ressemble?
C'est à la fois croustillant, c'est lacté, c'est caramélisé, il y a un petit accent de lait concentré sucré, sans vouloir citer de marque, c'est un truc grandiose.
C'est des petites galettes en fait.
Vous mettez la main dedans.
C'est très très addictif. Alors je vais passer en même temps parce que ça va adoucir le po'boy.
Ah, c'est tout pour moi?
Non, je vous fais tourner la boîte et puis l'info aussi pour la régie.
J'ai décelé l'identité de la noix, mais bon, on ne va pas trop vite.
Les noix de pécan.
Alors quand même, la question c'est, comment une spécialité française du XVIIe siècle s'est-elle retrouvée au bord du Mississippi?
Très bonne question, j'espère que vous allez y répondre.
Un petit flashback à l'époque de Louis XIII. Clément Jaluzot, le cuisinier du maréchal de Plessis-Pralin.
Ah, Plessis-Pralin.
Plessis-Pralin, on a un indice. Aurait été le premier à enrober des amandes dans du caramel en les mélangeant, histoire de leur donner un aspect un peu sableux. Le nom praline vient donc du nom de son maître, et il est devenu ensuite la spécialité de Montargis.
Rien à voir avec la Louisiane, en fait.
Et comme le disait Rachel tout à l'heure, les recettes voyagent dans les poches des migrants.
Oui.
Et les colons français s'installant à la Nouvelle-Orléans avaient la recette des pralines dans leur valise. Mais là-bas, pas d'amandes.
Ah oui.
Donc ils les remplacent par des noix de pécan. Noix de pécan qui poussent en abondance là-bas, c'est même l'emblème du Texas. Bon, on n'est pas en Louisiane, on est un peu...
Pecan nut.
Oh, yeah. Voilà. Georgia, Texas, ça, Louisiane.
Voilà, c'est emblématique de tout le sud des États-Unis. Et pour le sucre, bah là-bas, les cannes à sucre, il y en a partout. Ça explique aussi qu'il y a beaucoup de desserts bien bien sucrés par là-bas. Le sucre à roux, il est délicieusement parfumé et hop, dans le chaudron, on cuivre aussi.
Mais d'où vient donc alors cette consistance moelleuse, cassante, un peu finalement comme ce que les Anglais appellent fudge, caramel laitier.
Oui, alors en effet, on y ajoute du lait et du beurre, le côté vraiment riche de cette cuisine. Et moi, je trouve que ça m'a fait penser au sucre à la crème québécois, qui est à base de sirop d'érable aussi.
Mais il y a certainement une relation.
Eh ben, justement, pas du tout. C'est pas un coup des Acadiens, les pralines. Contrairement aux apparences à la dégustation, on fait une filiation qui n'a pas lieu d'être.
D'accord.
C'est vraiment une spécialité des villes, loin des bayous. C'est une tradition créole, et comme on l'a rappelé au début, c'était la désignation des colons français, mais aussi le nom des anciens esclaves venant d'Afrique francophone. Ces pralines, elles étaient vendues dans la rue par des vendeuses. Là-bas, on dit vendeuse, dit aussi pralinière.
Des vendeuses. D'accord.
Qui éventaient les productions avec une feuille de palmier et criaient dans la rue « belle praline, qui veut acheter mes pralines ?» La vente de ces pralines a même permis à certaines de ces marchandes de rue de financer leur indépendance
Ces confiseries ont servi à de nombreuses femmes à racheter leur liberté à leur maître, ce qui leur donne une toute autre saveur.
Eh bien, évidemment. Il y a l'histoire comme ingrédient supplémentaire.
Les pralines de la liberté, on pourrait les appeler.
Pralines de la Nouvelle-Orléans, si vous pouvez nous résumer la recette en quelques étapes, sachant qu'elle figure sur le site internet de l'émission.
Alors, pour faire à la maison, la première précaution, c'est de vêtir de papier sulfurisé des plaques ou des plateaux, parce qu'après, il va falloir aller assez vite une fois que vous êtes lancé en cuisson. Prévoyez large, parce que ça s'étale beaucoup. Vous hachez 175 g de noix de pécan en gros morceaux. Et dans une casserole, vous mélangez 175 g de sucre blanc, 175 g de cassonade, donc bien du sucre roux, de canne à sucre, pas
important,
de betterave là-dedans,
hein,
de
évidemment.
La canne à sucre. Bien. Une bonne cuillère à soupe de miel. Alors historiquement, là-bas, on met plutôt du sirop de maïs. Mmh. Mais l'idée, c'est que ça permet d'avoir la consistance souple et qu'il n'y ait pas de petits cristaux de sucre désagréables.
Sinon, on utilise aussi du glucose.
Ou du glucose. Voilà. Et à défaut, à la maison, ce qu'on a c'est... le plus souvent, c'est un pot de miel. Ça marche très bien. Mais si vous faites des glaces, vous avez peut-être du glucose. et puis, vous ajoutez aussi 12 centilitres de lait concentré non sucré. Historiquement, on mettait du lait, mais là, on va gagner du temps. 30 grammes de beurre doux, un peu de sel. Hop, vous faites chauffer tout ça une dizaine de minutes en remuant non-stop. Et quand on est entre 112 et 116 degrés, c'est mieux d'avoir un thermomètre à sucre quand même. Ça change la vie. Hop, c'est prêt. Là, vous prenez des cuillères que vous jetez clac, clac, clac rapidement sur les plaques. Mmh. Vous laissez environ une demi-heure et de caraméliser, ça va devenir un peu blanc, un peu opaque.
Ça. Un peu lacté.
Un peu lacté. Et puis alors
un
après, je vous défie d'y résister.
Non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, Joseph Biolato a... Non, ça va,
ouais, ça va. Non,
vous vous êtes attaqué au po'boy.
Ouais, le po'boy.
Attention, reconcentrez-vous, Joseph, dans un instant. Joseph Biolato nous révèle son cocktail signature, évidemment, aux influences cajun. Et on va avoir droit à nouveau au pecan nuts avec une pecan pie, signée Rachel Moller. Tout ça, c'est juste après une petite louche de blues créole d'Elgrès, l'Amnella.
Sur France Inter, on va déguster.
Bye.
on va déguster ce mets à l'heure d'été.
On va bouillir du maïs, du mushroom et des patates avec les crevettes.
Alors là, je vois dans ce récipient, oui, en effet, vous mettez des champignons.
Mushrooms.
Oui. Mm-hmm. Oui.
Du maïs.
Maïs.
Et qu'est-ce que vous mettez aussi ?
Des pommes de terre. Pommes de terre rouges. Moi, je vais manger des écrevisses, pas des pommes de terre et des champignons et du maïs. J'aime mieux les écrevisses.
On s'enfonce dans les profondeurs du terroir, du territoire cajun, à une demi-heure de la ville de Lafayette. Au milieu des étangs peuplés de roseaux, on est en compagnie du pêcheur d'écrevisses Barry Toups, qui passe un bon moment avec son ami Georges. Comment mange-t-on les écrevisses ? Mode d'emploi.
Oh, yeah, yeah. T'as abandonné toute ta famille. Où est pour t'en aller aussi loin de moi? Oh, yeah, yeah. Rappelle toutes les promesses que tu m'as fait aujourd'hui, t'es après me quitter. J'ai séparé la queue de la tête et puis on mange juste la queue de la chevrette. C'est bien aisé à éplucher.
En fait, vous mangez des écrevisses depuis que vous êtes enfant. C'est ouais, typiquement cajun, là, les écrevisses.
Je me rappelle pas et quand j'ai commencé à manger des écrevisses. Barry non plus.
Cinq ou six années.
Là, ce sont des écrevisses bouillies, hein.
Ça, c'est des écrevisses bouillies. Là, tu peux faire des écrevisses étouffées, des écrevisses bisques, des sauces piquantes d'écrevisses, des gambots d'écrevisses. Il y a plusieurs moyens que vous pouvez cuire des écrevisses. Vous avez attrapé ces écrevisses aujourd'hui, toi et Barry?
Oui, on les a pêchées ce matin, les écrevisses. Qu'est-ce qu'on boit avec les écrevisses?
Il y en a qui boivent de l'eau. Moi, je suis après boire du coke. Plusieurs mondes boivent de la bière. Pas du whisky ou du vin. De la bière. Oh, ouais. Bien bon aussi.
On y est au bord des bayous dans l'embouchure du Mississippi en Louisiane. Alors, c'est vrai que les bayous, c'est marécage, c'est un véritable garde-manger, en fait, en Louisiane. Hein. On parlait tout à l'heure de l'alligator. Il y a également les écrevisses. Ingrédients qui pullulent, si j'ose dire.
Oui.
Et qu'on mange à toutes les sauces.
Oui, partout, les écrevisses, c'est comme. C'est plus répandu, presque. Bon, il y a aussi les gambas, mais ils sont partout là-bas. Ici, en France, malheureusement, c'est une rareté. Voilà.
Est-ce que vous en faites quand même dans votre restaurant à Paris,
des écrevisses? Quand ils sont disponibles, on les fait. Il y a un éleveur du écrevisse louisiane en France avec qui on travaille de temps en temps, qui fait des très 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 beaux produits qui ressemblent vraiment, c'est la race louisiane, élevée en France. Et quand c'est disponible, nous on les prend.
Ah, voilà. Et ben vous me préviendrez la prochaine fois que vous allez. Voilà. J'aimerais beaucoup goûter ça à la sauce cajun. Attention. Joseph Biolato entre à nouveau en scène pour son cocktail signature, puisque je rappelle que vous êtes bartender à Bâton Rouge. Hein. On est quand même dans un petit morceau, une petite enclave de Louisiane, dans le quartier Pigalle à Paris.
Oui, oui, en hommage à la ville de Bâton Rouge.
Et on peut aller y déguster vraiment des cocktails, toute la science du cocktail d'influence cajun.
Oui, et pas que. Ouais, c'est vraiment.
Bien sûr.
C'est un melting pot de culture, et c'est un melting pot de cocktails. On a essayé de faire une offre très consensuelle. On a de tout. On a des cocktails louisianais, on a des cocktails d'influence française, américaine.
Alors parfois on est dans la tradition louisianaise.
Oui.
Et puis parfois on est un peu dans l'influence créative.
On essaye, oui, il y a un twist à chaque fois.
Hein.
Il y a très peu de classiques. Il y a le Hurricane qui se rapprochera le plus de la recette classique qu'on trouve à Nouvelle-Orléans. Et encore. Mais sinon, non, à chaque fois on avait vœu avec Julien Esco de créer des recettes avec un twist à chaque fois. Le goût, toujours le goût.
Et ben justement, le goût, on attend de voir ça. Est-ce que vous y mettez?
Allez.
Vous avez, alors, il y a tout un tas de bouteilles sous vos yeux. N'ayez pas trop peur à la maison. On lui a demandé un cocktail pas trop compliqué qu'on peut reproduire sur son lieu de vacances.
Cinq ingrédients.
Ce sont lesquels?
Alors, tout d'abord, du basilic frais.
Oui.
Au fond du verre. De la glace concassée ou de la glace pilée si vous avez, mais de la glace concassée, ça fait l'affaire. Vous cassez des cubes avec un gros marteau avec lequel vous avez planté les sardines pour la tente. C'est parfait.
C'est ça.
Vous avez sirop d'érable aux épices cajun. Donc, on fait aussi notre mix d'épices cajun nous-mêmes.
Donc, épices cajun.
Jamais servi par soi-même.
Si on veut infuser un sirop d'érable avec des épices cajun.
Pour un litre, une grosse cuillère à soupe.
Et
c'est tout.
De temps
goûtez un cru.
N'importe.
Il n'y a pas besoin de faire ça très longtemps.
Non, il n'y a pas de.
Et du sirop ambré ou du sirop plus clair?
Ah non, sirop du 3.
Du 3, du grade 3, donc du brun.
Ouais.
Oula.
Souvent dans les cuisines, ah oui.
Une passion pour la mycologie, je pense,
on cherche du goût. Hein.
Ouais, le
goût.
Donc,
c'est bon.
Mais ça serait bien aussi pour laquer des côtes de porc ou des trucs au barbecue. Donc,
alors, on est un peu pris par le temps, malheureusement, il va falloir s'activer un tout petit peu. On a compris qu'on avait du sirop d'érable infusé dans des épices cajuns.
Voilà.
De la passion. Que vous avez versé donc sur la glace pilée.
Directement, donc, tout est en direct. Il n'y a pas de shaker, il n'y a pas d'ustensile, quasiment pas.
Donc, moi, je peux faire ça à la maison, du coup.
Décrivez bien ce que vous faites.
Je verse.
Les auditeurs n'ont pas l'image.
De la passion.
Oui.
Du rhum jamaïcain.
De la passion, vous parlez de jus de fruits de la passion.
De jus de fruits de la passion.
D'accord.
Du rhum jamaïcain. Oh. Un rhum très brun, très foncé, très, très vanillé.
Bon,
très...
si c'est un rhum vieux de Martinique, vous nous en voulez pas?
On peut mettre un rhum de vieux de Martinique, ça sera un petit peu moins réglissé, mais voilà, ça fait l'affaire aussi. Très important, le soda au gingembre.
Ah,
ginger beer. Complété jusqu'en haut. On va être très simple, hein, il n'y a pas 10 000 ingrédients.
Et là, la grande, j'adore cette, elle est formidable cette cuillère qui fait à peu près 50 cm de long. Et là, vous mélangez à même le verre. Avec la glace pilée et tous les ingrédients. Il y a donc du rhum de Jamaïque, du sirop d'érable
aux
épices cajuns,
de la ginger beer, d'ailleurs.
Et du jus de fruit de la passion pour l'acidité.
Voilà. Et du basilic
frais. Basilic frais pour amener la note de fraîcheur.
Je peux bien imaginer ça, c'est la carte de brunch là chez nous.
Vous avez le droit de le copier. Hein.
Ah non, mais
il y a aussi des cocktails chez vous. Et vous avez le droit d'ailleurs de goûter.
Il peut venir,
venir le dimanche faire les cocktails au brunch, il n'y a pas de souci.
Alors, qu'est-ce que ça donne?
Alors, on va voir. On va déguster.
Alors, la dernière touche.
Il s'agit donc du Jamaican Creole Circus. On est entre Jamaïque et Louisiane, on l'aura compris.
Un quartier de fruits de la passion pour finir.
Oh, c'est joli. Bravo. Hop. Félicitations. Wow, franchement, ça mérite une photo. Je vous propose de goûter, Rachel, et de nous dire ce que vous en pensez. Mais assez rapidement, car vous avez une dernière mission dans cette émission. Alors?
Top, extraordinaire.
Estelle.
Waouh, c'est à la fois acidulé et frais. Oui. Non, hors de question, vous piquez mon verre, François Régis, même pas.
Je commence à tendre le bras, ça ne marche pas.
Non.
Tant pis, dernière petite recette, ça marche bien ou pas?
Non,
gardez-le pour vous.
C'est frais, c'est délicieux.
Oui.
Waouh.
Bon, il est bon, on va aller boire des cocktails chez Bâton Rouge. À Pigalle, quartier Pigalle. Ouh là là, on n'a plus le temps. Ah mais non, mais que se passe-t-il?
Deux minutes.
Bah non, je suis désolé. La pecan pie. Vraiment, résumé en quelques phrases, sachant que les auditeurs retrouveront la recette sur le site.
C'est mon dessert préféré, c'est croustillant, il y a du goût, il y a du sucré, du salé. Du sirop d'érable, du bourbon, parce que le bourbon, voilà, il faut avoir du bourbon. Et c'est génial, j'ai grandi avec ça.
On va la manger. Quel niveau de difficulté pour les auditeurs qui nous écoutent?
C'est très très facile. On mélange tous les ingrédients, on met sur un fond brisé et on met au four 30 minutes et basta.
Sur le site internet, il y a toutes les recettes de toute façon. On a été un peu pris par le temps. C'était une émission riche et tout à fait dépaysante. Merci à tous les deux. Two Stories, Sketch Map 72 pour le numéro. C'est sur les bords du canal Saint-Martin à Paris pour une expérience louisianaise authentique à Paris. Et Bâton Rouge, dont vous nous rappelez l'adresse.
62 rue Notre-Dame-de-Lorette.
Voilà. Bonjour les cousins et les cousines. Elle a appris le français. Moi, j'ai jamais étudié le cajun. Ça, c'est mon mari. On n'est pas divorcé parce qu'il comprend pas un mot de français. Et quand je l'engueule, ça marche bien.
Dimanche à 11h, je vous propose une émission toute fraîche sur la star des étals, la tomate. À demain, si vous avez encore faim.